Chapitre 2. Le soir du 27 mars, au 134 de l'avenue Henri Martin, dans l'appartement qu'il a hérité de son frère il y a 6 mois, le vieux général baron d'Autrec dort dans un confortable fauteuil, tandis que sa demoiselle de compagnie lui fait la lecture et que la sœur Auguste lui prépare son lit. À 11 heures, cette dernière dit à la demoiselle de compagnie « Mademoiselle Antoinette, j'ai fini mon travail, je m'en vais. »« Bien, ma sœur, n'oubliez pas que la cuisinière n'est pas là aujourd'hui et que vous êtes seule avec le domestique. Ne vous inquiétez pas pour monsieur le baron, je couche dans la chambre voisine et je laisse ma porte ouverte. » La religieuse s'en va. Au bout d'un instant arrive Charles, le domestique, qui vient prendre les ordres. Le baron s'est réveillé. C'est lui qui répond. « Toujours les mêmes ordres, Charles. Vérifiez que la sonnerie électrique fonctionne bien dans votre chambre et au premier appel, descendre et courir chez le médecin. Allons, mademoiselle Antoinette, où en étions-nous de notre lecture ?»«
Vous ne voulez pas vous coucher, monsieur le baron ?»«
Mais non, je me couche très tard. »
20 minutes après, le vieil homme dort à nouveau et Antoinette sort sur la pointe des pieds. Quant à Charles, il ferme toutes les portes et les volets et va se coucher. 1 heure passe quand, soudain, il saute de son lit. La sonnerie vient de se mettre en marche. Il s'habille rapidement, descend et frappe à la porte du baron. Aucune réponse. Il entre. Il n'y a pas de lumière.
« Mademoiselle !» appelle-t-il. « Vous êtes là ! Le baron est malade ?»
Silence. Il allume et...
« Quoi ? Ce n'est pas possible »
s'écrie-t-il. Le spectacle qui s'offre à ses yeux est épouvantable. Des chaises sont renversées, des objets sont tombés, et au milieu de ce désastre, le baron gît mort. Un fin poignard couvert de sang est à côté de lui.
« Mon Dieu !» fait Charles. « On l'a tué ! On a tué monsieur le baron !»
Il pense aussitôt à la demoiselle de compagnie. On a dû la tuer, elle aussi. Il court dans sa chambre. Personne. La pièce est vide. Le lit n'a même pas été défait. Il doit se rendre au plus vite au poste de police. Il court dehors et y va sur le champ. Mais là, il doit attendre 1 heure afin de pouvoir raconter les détails du crime au commissaire. Le commissaire, accompagné de quelques hommes, va chez le baron. Il monte dans la chambre et dit au domestique qui se trouve derrière lui
« Vous m'aviez bien dit que la chambre était dans un grand désordre. »
Charles regarde bouche bée autour de lui. Les meubles ont repris leur place habituelle. Il n'y a plus rien par terre.
« Le cadavre, dit-il, monsieur le baron. »
« En effet, où est la victime ?»
demande le commissaire. Il s'approche du lit. Sous un grand drap qu'il soulève, repose le général baron d'Autrec.
« Quelqu'un est venu pendant mon absence ?»
dit Charles, qui ne comprend rien à rien.
« Comment ?» demande le commissaire. « Vous aviez tout fermé, n'est-ce pas ?»«
Oui, mais tout est en ordre maintenant. »«
Voyons, où est la demoiselle de compagnie dont vous m'avez parlé ?»«
Elle a disparu. Elle a dû sortir avant que je ferme toutes les portes. »
« Nous allons la retrouver, » dit le commissaire.
« Et l'arme du crime ?»«
Disparue aussi, » dit Charles.
« C'est un petit couteau qu'Antoinette Bréa, la demoiselle de compagnie, utilise pour ouvrir le courrier du baron. »
Le commissaire retourne au poste de police et charge Ganimard de l'enquête. On fait chercher la demoiselle de compagnie. Impossible de la retrouver. On apprend qu'elle a été engagée 12 jours plus tôt par la sœur Auguste, car elle avait d'excellentes références. Tout laisse penser que c'est elle l'assassin. Mais comment a-t-elle fait pour revenir dans la maison après le crime si tout était fermé?
Cette façon d'entrer et de sortir mystérieusement de la maison me rappelle l'histoire du billet de loterie de M. Gerbois, dit un jour Ganimard au commissaire.
« À mon avis, Lupin est sûrement mêlé à cette affaire. »«
Lupin, toujours Lupin, vous le voyez partout !»
fait le commissaire.
« Il est où il est ?» répond Ganimard, vexé.
« Il faut qu'il ait des raisons pour être quelque part, » observe le commissaire. « Or ici, rien n'a été volé !»«
Bien, » dit Ganimard.
Et le diamant ?
Quel diamant ?
Le diamant bleu. Le célèbre diamant bleu qui faisait partie de la couronne royale de France et qui appartenait au baron.
Et il a été volé, ce diamant ?
Non, répond Ganimard. Et cela est étrange. Ce crime aussi, c'est pourquoi je suspecte Lupin, car quand je ne comprends pas, je sais que c'est toujours lui.
Les héritiers du baron organisent quelques jours plus tard une vente aux enchères des meubles et objets du défunt à la salle de Rouault. Au milieu des meubles et objets sans valeur artistique, on peut voir gardée par deux agents la bague au diamant bleu. Après une vente difficile, ce sont le comte et la comtesse de Crozon qui obtiennent le bijou. Quelques jours plus tard, la comtesse, qui vit dans un château près d'Amiens, reçoit une lettre qui l'inquiète un peu et qui dit ceci. « Le diamant bleu porte malheur, souvenez-vous du baron d'Autrec. » L'été suivant, lors d'un dîner donné par la comtesse dans son château, le diamant est volé. Et voici les faits. Le soir du 10 août, les invités du comte et de la comtesse sont réunis dans le beau salon du château. On joue de la musique. La comtesse se met au piano et, posée sur un petit meuble, près de l'instrument, se trouvent ses bijoux, parmi lesquels la bague du baron d'Autrec. Au bout d'une heure, le comte se retire, ainsi que ses deux cousins, les Dandelles et Madame de Réal, une amie de la comtesse de Crozon. Cette dernière reste seule avec M. Blenchen, consul autrichien, et sa femme. Ils bavardent, puis la comtesse éteint une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Blenchen éteint les deux lampes du piano. Il y a un instant d'obscurité, un peu de confusion, puis le consul allume une bougie et tous trois partent se coucher. Mais à peine dans sa chambre, la comtesse demande à sa femme de chambre d'aller chercher ses bijoux. Celle-ci les dépose sur la cheminée. Le lendemain, Madame de Crozon constate qu'il manque une bague. La bague au diamant bleu. Le comte prévient le commissaire d'Amiens. On soupçonne aussitôt le consul d'Autriche. Le commissaire le fait discrètement surveiller, jour et nuit, pendant 2 semaines. Le jour où le consul annonce son départ, le commissaire fait fouiller ses bagages. Dans un petit sac, on trouve la bague. On arrête le consul, celui-ci déclare qu'il ne comprend pas comment la bague est arrivée là, l'affaire est si délicate qu'on fait venir un inspecteur de Paris. Ganimard est envoyé à Amiens le lendemain. Pendant 4 jours, l'inspecteur fait son enquête, puis il repart à Paris. Une semaine plus tard, il envoie une lettre à M. et Mme Crozon, dans laquelle il leur demande de se rendre le lendemain à 5 heures au thé japonais qui se trouve rue Boissy d'Anglas. Quand le lendemain, le comte et la comtesse se présentent dans le salon de thé, Ganimard est accompagné d'un autre homme. Monsieur Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui Arsène Lupin, vous vous en souvenez sans doute, a volé 500 000.
« Enchanté, répond le comte. Nous vous écoutons, monsieur Ganimard. »
Voilà, je voulais vous dire que le consul d'Autriche n'est pour rien dans le vol de la bague. Le diamant trouvé dans son sac est en effet un faux. Le lendemain du vol, l'un de vos invités a envoyé un petit paquet à Paris à un certain monsieur Belou. Le soir même où ce monsieur a reçu le paquet qui contenait en fait la bague, il a déménagé.
« Il s'agit d'un de mes cousins peut-être ? » demande timidement le comte.
« Non, il s'agit de Madame de Réal. »
« Vous accusez mon amie, Madame de Réal ?» dit la comtesse stupéfaite.
« Une simple question, Madame la comtesse, » répond Ganimard. « Est-ce que Madame de Réal assistait à la vente du diamant bleu ?»«
Oui, en effet. »«
Est-ce qu'elle vous a poussé à acheter la bague ?»«
Oui, cependant, mon amie est incapable... »«
Pardon, pardon, Madame la comtesse. » »« Je sais que votre amie, comme vous l'appelez... » n'est pas une amie intime. Vous la connaissez seulement depuis cet hiver. Et j'imagine que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle est faux, et je vais vous le prouver. Madame de Réal est en fait courtière en diamant. C'est la dame blonde, la complice d'Arsène Lupin. Il n'y a plus aucun doute. Elle va venir dans un moment.
je suis allé la voir et je lui ai offert, sous un faux nom, mes services comme intermédiaire auprès de personnes qui désirent acheter des pierres de valeur. Nous avons rendez-vous ici. Des policiers surveillent de tous côtés. Elle ne peut s'échapper.
Ah, quelle victoire sur Arsène Lupin !
Ganimard se lève et se penche par la fenêtre. « La voilà !» s'écrie-t-il. Presque aussitôt apparaît sur le seuil une femme grande, mince, aux cheveux d'or. Ganimard se précipite vers elle et s'écrie «
Enfin, je vous tiens !»«
Que voulez-vous ? »
dit la femme effrayée. « Monsieur Gerbois, demande Ganimard, reconnaissez-vous la personne qui a enlevé votre fille ?»«
Non !»
Ganimard a comme un choc.
« Non ? Ce n'est pas possible, voyons, réfléchissez !»«
C'est tout réfléchi. Madame est blonde comme la dame blonde, mince, mais elle ne lui ressemble pas du tout. »«
Et madame n'est pas non plus madame de Réal, » affirme le comte de Crozon. Ganimard ne peut croire ce qui lui arrive. La femme demande alors à Ganimard
« Mais vous êtes bien l'inspecteur, Ganimard ?»«
En effet !» murmure Ganimard.
Alors voici, c'est pour vous. Cette lettre m'a été donnée par un jeune homme qui savait sans doute que nous avions rendez-vous.
Ganimard prend la lettre et lit. Il était une fois une dame blonde, un Lupin et un Ganimard. Or, le méchant Ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde, et le bon Lupin ne le voulait pas. Alors, le bon Lupin, pour que la dame blonde entre en contact avec la comtesse de Crozon, lui a fait prendre le nom d'une commerçante qui est grande, mince comme la dame blonde, et qui a de beaux cheveux dorés, comme elle.
Et le bon Lupin se disait, « Si jamais le méchant Ganimard est sur la piste de la dame blonde, il trouvera l'honnête commerçante. »
Il a été facile de vous tromper, cher Ganimard, et j'en suis très content. Merci de m'avoir fait rire et à la prochaine, Arsène Lupin.
Il sait tout,
gémit Ganimard, qui n'a plus du tout envie de rire.
Il sait des choses que je n'ai dites à personne.
Pendant 10 minutes, Ganimard lit et relit la lettre de Lupin, pendant que le comte et la comtesse bavardent avec M. Gerbois. Puis le comte dit à l'inspecteur « Cher monsieur, je vois que nous en sommes au même point. »«
Pardon, je viens de prouver que c'est la dame blonde qui a volé le diamant et que c'est Lupin qui la dirige. »«
En effet, mais ça ne sert à rien. Le diamant est toujours perdu. »«
Je n'y peux rien. »«
Certes, mais quelqu'un pourrait peut-être... »«
Que voulez-vous dire ?»
Le comte hésite, puis dit... Après vous, il y a un seul homme capable de combattre Lupin. Cet homme, c'est Herlock Sholmès. Est-ce que nous pouvons lui demander son aide ?
Oui, bien sûr, répond Ganimard un peu troublé.
Peut-il compter sur votre collaboration ? Demande Madame la Comtesse.
Naturellement, répond Ganimard d'un ton froid. Le soir même, une lettre, sollicitant son aide, est envoyée à Herlock Sholmès.